suis toujours très heureux de vous retrouver en ce jour de mercredi 17 mai de l'année de grâce 2023. Il est 11h et vous comprenez que c'est l'heure du Club de la presse sur votre radio La Nouvelle Génération. Je suis Pascal Losso au micro, Michel Vitogbe Kokout Omega assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Gérard Akoucha. Club de la presse, c'est avec nos radios partenaires, grâce à qui vous pouvez alors nous suivre dans tout le Togo. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et bien sûr Radio Courtoisie à Dapan. Nous n'allons pas oublier aussi nos radios en ligne partenaires, Radio Lébéné et Ibn Radio. Le plateau du Club de la presse, c'est avec des confrères journalistes en studio pour débattre de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ils se sont déjà installés. Permettez-moi de leur souhaiter la bienvenue. Alors, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les fidèles branchés.
Vous êtes le directeur de publication du journal La Machette. J'espère que le journal se porte bien.
Oui, ça va, on peut dire ça va, tu sais, le Togolais, même si ça ne va pas, tu lui demandes, il dit ça va très bien. Voilà, donc disons que ça va très bien.
D'accord, et ça c'est à la Togolaise.
Oui, à la Togolaise, véritablement.
Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à tous celles qui sont en train de nous suivre en ce moment.
Le Mania libéré, ça se porte bien.
À la Togolaise.
À la Togolaise aussi, voilà. Et celle que j'appelle affectueusement la gazelle alors de la presse togolaise, Estelle Koudjounou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Gazelle Info se porte bien.
Pas comme
le
sur
soupir, le soupir est
les rails, mais on essaie de le maintenir sur les rails.
Abel, bonjour.
Bonjour Pascal.
Directeur bonjour. De publication du journal Santé Éducation. Et les uns et les autres comprennent que nous sommes au mercredi, nous allons parler santé.
Exactement, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, bonjour aux confrères ici présents.
Alors, c'est vrai, je l'annonçais, nous allons parler santé, et quoi de plus normal qu'on parle santé avec santé éducation. Et aujourd'hui, vous êtes dans les kiosques, et déjà, on le sait très bien, aujourd'hui, 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'hypertension, cette maladie qui fait tellement ravage aujourd'hui en Afrique, hein, et surtout en Afrique subsaharienne. Et donc, vous titrez à la une de votre journal santé éducation ce matin, conseils pour réguler la tension artérielle. Alors, quels sont ces conseils pour réguler la tension artérielle? C'est vrai que, je l'ai dit, c'est une maladie qui fait tellement ravage aujourd'hui. Comment faire pour réguler surtout la tension artérielle?
Exactement, l'hypertension, ennemi numéro un du Togolais.
Ah bon, Togolais?
Oui, du Togolais. Pourquoi? Quand on voit les chiffres aujourd'hui, en 2021... on est à 30%. Et c'est dramatique. Parce qu'en 2010, on était à 19%. Et voilà, en 2021, on est en 30%. Donc, on voit que déjà, c'est dramatique et il faut agir. Donc, l'hypertension est au cœur de toutes les maladies non transmissibles. C'est-à-dire que quand on a une hypertension et qu'elle n'est pas traitée, qu'elle n'est pas soignée, on est à risque, d'abord, on est à risque de l'insuffisance cardiaque. On est à risque de l'insuffisance rénale. On est à risque d'être atteint oculaire. Et la mort.
Ça, c'est ce qui est plus grave.
Voilà. Donc, il faut agir. Et la première action qu'il faut poser, qu'il faut mener, c'est l'information. Il faut que le Togolais soit informé par rapport à cette maladie. Et quand on n'est pas informé, on ne peut pas réagir, on ne peut pas agir. Donc, nous informons par rapport à cette maladie pour qu'on sache en réalité ce que c'est que l'hypertension et comment la prévenir et comment agir quand on est un patient hypertendu. Je vous donne, par exemple, quelques recommandations. D'abord, surveillez notre alimentation.
Est-ce que c'est la cause première? C'est-à-dire notre alimentation aujourd'hui?
Oui. Oui,
D'aucuns disent même d'ailleurs que nous mangeons trop salé.
C'est ça.
Et quand on prend même d'ailleurs l'utilisation des bouillons de cuivre que nous utilisons même en haut, dont nous faisons usage aujourd'hui, il semble que cela constitue également un élément ou un facteur très important pour...
Le premier facteur, en fait, c'est la mauvaise alimentation que nous avons. On mange mal, on mange trop salé, on mange trop gras, on se goinfre des aliments malsains, on boit beaucoup d'alcool, et ça contribue à l'hypertension. Quand on parle d'hypertension, en fait, c'est comme une hyperpression du sang. Le sang a sa pression, mais c'est comme, c'est trop élevé, en fait, la pression du sang.
C'est la dose élevée.
Voilà. Donc, tous ces facteurs contribuent, surtout la mauvaise alimentation. Donc, on recommande à chaque citoyen de manger moins gras, moins sucré, moins salé, et surtout de pratiquer une activité physique régulière. Et le comble, le constat, c'est que beaucoup ne se font pas dépister. C'est ça le comble aujourd'hui. Donc, il faut amener les gens à pouvoir se faire dépister dans les centres sanitaires, dans les cabinets médicaux, pour que chacun sache son état de santé. Parce que c'est une maladie silencieuse. Vous êtes là et puis voilà, vous êtes peu tendu quand vous le diagnostiquez. Donc, attention, cette maladie, elle est chronique, elle est silencieuse et c'est l'ennemi numéro un du Togolais aujourd'hui.
C'est l'ennemi numéro un du Togolais aujourd'hui. Abel, c'est vrai que j'écoutais un docteur qui disait entre-temps que quand les artères sont touchées, c'est les organes sont touchés dans notre organisme et notamment le cœur qui est touché. Et aujourd'hui, vous préconisez aussi, ou du moins, vous nous donnez des recettes ou des aliments que nous pouvons manger pour arriver à mettre en bonne santé notre cœur.
Oui, le cœur, vous savez, organe très très vital pour l'homme. Bon, ça, je n'informe personne ici. Quand une femme est enceinte, le premier organe qui se forme, c'est le cœur.
Oui.
Donc, on voit que cet organe est très vital et il faut le protéger. Et nous, on se focalise, mais on fait un focus également sur l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le manger. C'est le manger. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger pour préserver, pour protéger, pour entretenir son cœur? Donc, on se base sur les fruits et légumes. Vous savez, c'est la nature qui nous offre ça. Et quand on adopte une alimentation variée, équilibrée, saine en fruits et légumes, vous allez voir, on est bien portant. Donc, plus de 80% du végétal et moins de 20% des produits d'origine animale. Donc là, l'organisme est en bonne santé. Le cœur va bien, le sang circule bien et la santé y va. Donc, on recommande toujours à tout citoyen d'adopter une alimentation riche en fruits et légumes. Donc, sur tout ça, c'est vraiment important. Et nous avons proposé une recette maison que tout le monde peut faire à la maison pour qu'on ait un cœur en bonne santé. Donc, c'est essentiel pour tout le monde. Tant le cœur ne marche pas, c'est la mort.
Quand le cœur ne marche pas, c'est la mort. Alors, si le cœur est touché, l'autre organe qui peut être aussi touché, c'est le cerveau. Et le cerveau, vous nous donnez aussi aujourd'hui des conseils pour des meilleurs aliments, hein, pour ce qui concerne des meilleurs aliments contre le stress.
Exactement. Vous savez, tout le monde est stressé. Le stress, ça commence petit à petit et puis ça devient quelque chose de chronique si on ne le maîtrise pas totalement. Voilà. Donc, il faut savoir le gérer.
Oui.
Il faut savoir gérer son stress. Quand on est stressé, quand on est angoissé, et quand on a de l'anxiété, des sautes d'humeur, des fois, on sent de l'irritabilité. Donc, la déprime, la fatigue, il faut aussi miser sur notre alimentation. Pourquoi? Parce que l'alimentation est un allié important pour corriger, mais pour gérer ces troubles-là. Donc, comme c'est le cerveau qui est le premier organe qui est touché, donc il faut des aliments qui apportent en fait du tonus au cerveau.
Des aliments qui apportent du tonus au cerveau.
Donc, qui permettent au cerveau d'avoir de l'énergie pour travailler. Je recommande par exemple la banane. La banane, un fruit qu'on a sur le marché. La banane, c'est très bon pour notre cerveau. Et également bon pour l'hypertension également. Bon pour lutter contre l'hypertension également.
Voilà.
Donc ce fruit est un fumeur.
Alors, l'autre maladie qui peut toucher également le cerveau, c'est la sinusite. Et vous parlez même d'ailleurs, de la complication et des traitements de cette maladie. Et vous avez élaboré aussi un certain nombre de conseils ou des recommandations dans votre journal aujourd'hui.
Oui, dans la parution 717, c'est-à-dire la parution passée, nous avons déjà fait un focus sur les causes et les signes et les symptômes de cette maladie, la sinusite. Mmh. Donc, je recommande aux lecteurs de se procurer cette parution pour comprendre un peu les causes et les signes de cette parution. Mais dans cette parution, on fait encore un focus sur les complications. Et vous savez, quand on a la sinusite et si elle n'est pas traitée, on a des complications qui sont un peu rares, mais graves. Mmh. Voilà. Les complications sont rares, mais c'est très grave. D'abord, je peux citer par exemple les complications oculaires.
Oui.
Vous allez voir que la personne, le patient, a des gonflements au niveau du visage. A des gonflements au niveau des paupières. On sent comme une rougeur, en fait, au niveau des yeux. Et la sinusite non traitée peut aggraver aussi les troubles respiratoires chez quelqu'un qui a de l'asthme, par exemple. On voit. Parce que la sinusite touche les sinus. Donc, c'est la face, en fait, le visage, en fait, les os du visage qui sont touchés. Et quand on respire, ça donne une mauvaise haleine, ça donne une mauvaise odeur, en fait. Donc, quelqu'un qui a l'asthme, attention, la sinusite peut compliquer son état de santé. Donc, au niveau du cerveau, par exemple, la sinusite peut entraîner ce qu'on appelle la méningite. La méningite, c'est ce qu'on voit. Donc, la première mesure qu'on doit prendre, c'est de faire attention quand on est enrhumé. Quand on est enrhumé, il faut pratiquer une hygiène très très importante. Bien se laver les mains, bien se moucher. Parce que le rhume, ça entraîne, un rhume non traité, ça entraîne la sinusite. Donc ça, c'est la première mesure qu'il faut adopter. Et surtout éviter le contact avec les personnes enrhumées, les produits allergiques, les environnements pollués, insalubres. Ce qu'on voit. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut prendre. Et surtout, aller à l'hôpital, consulter un médecin. C'est vraiment important.
Quand on sent un petit bobo, il est très important d'aller à l'hôpital.
Consulter un médecin par rapport à ça.
Merci beaucoup, Abel. Abel, nous allons juste dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent actuellement que votre journal est dans les kiosques ce matin et qu'ils peuvent facilement alors aller dans ces kiosques et bacs pour s'en procurer, j'allais dire.
Voilà, également sur le site internet.
Voilà, sur votre site internet.
On peut le trouver sur le site internet.
Tu peux nous rappeler le site internet, le lien.
www.santé-education.tg, le site sur lesquels on peut aller pour trouver toutes les informations santé, les vraies informations santé. Et je rappelle que la semaine prochaine, on fera un lancement de ce site. Donc, tout le monde peut aller sur le site et découvrir un peu ce que nous faisons en santé éducation.
Ah ben, merci à toi et très bonne journée. Alors, nous revenons ici, alors en studio, bien évidemment, et nous allons parler, Abel, j'en parlais avec Abel tout de suite, et surtout concernant cette journée alors de lutte contre, journée internationale de lutte contre l'hypertension. Alors, Sylvestre, aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui devient tellement récurrente de telle enseigne, enfin, dans nos sociétés, et surtout, c'est des jeunes qui sont atteints. Alors, comment est-ce que vous comprenez cela, Sylvestre?
Non, je crois que tout à l'heure, le confrère l'a si bien évoqué, c'est l'alimentation. Vous savez, notre premier médicament doit être ce qui est donc dans notre plat. Alors, si nous avons une mauvaise alimentation, et je le dis, parfois nous mangeons mal, mais nous croyons être les plus opulents. Quelqu'un qui va chez le petit Diallo et qui prend macaroni, et qui prend mayonnaise, et qui prend les œufs. Et il demande encore qu'on puisse mettre encore, frire d'autres œufs qu'on met à côté. Vous savez, c'est quoi le plus riche possible. Alors là, nous mangeons mal. Voyez-vous. Donc, il y a c'est. Je crois que le mieux à faire aujourd'hui, c'est de voir notre alimentation. Et puis, il a si bien dit, il faut également faire des activités sportives. Ça, je le recommande à tous nos confrères ici présents. Et je crois que.
Comment se fait-il que vous.
Vous l'avez mis un peu en retard, mais je crois que c'est important quand même que je puisse l'inviter à courir un peu les samedis. Je sais que Abbas, lui, il marche les dimanches SL, donc il faut faire quelques activités sportives, puisque moi-même je le fais.
J'en fais déjà. Voilà, donc,
merci. Surtout que tu as été nommément cité.
Nommément cité.
Voilà.
Donc, merci aux confrères ici présents et puis merci aux auditeurs également. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Merci aux confrères Sylvestre pour ses conseils. Et chaque fois, j'ai toujours invité Sylvestre, mais qui n'est jamais venu chez moi, pour voir ce que je fais. Abbas, lui, il est témoin également. Comme il prend Abbas comme un témoin, Abbas est témoin, il sait ce que je fais. Malgré tout, oui, je suis un grand sportif, pour ceux qui me connaissent.
Ah bah, quand vous dites malgré tout, le tout, c'est... qu'est-ce que vous mettez dans le tout?
Non, le tout, attends, tout le monde connaît.
Il fait tout, mais ça ne change pas, en fait.
Tout le monde connaît, tout le monde sait qui est Tchaboré. Le moins, mais c'est des journalistes. Ça, a souvent l'habitude de le dire. Mais sachez que Tchaboré, il pratique le sport. Ça, soyez-en sûr, que ce soit la marche, que ce soit le sport, dans tout son sens, hein, je le fais. Donc, je veux rassurer le confrère Sylvestre et je continue par l'inviter un beau matin pour qu'on puisse faire un challenge, hein, parce que je le défie.
Voilà, merci pour le défi. Alors, SL?
Oui, la question que tu as posée est pertinente en ce sens que même si on préconise aujourd'hui que le premier élément pour se maintenir en bonne santé, c'est les aliments, on va même parler d'alicaments aujourd'hui pour notre santé. Moi, la question doit être posée pour moi à la base. Vous pensez que tout ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour être en bonne santé? Je m'explique. On préconise de manger les légumes. On demande qu'on consomme en grande quantité de fruits, au moins 5 fruits même par jour.
Voilà.
Mais la question est de savoir, les légumes et les fruits que nous consommons aujourd'hui, vous pensez que ça assure vraiment notre bonne santé? Mais la remarque que j'ai faite, les fruits n'arrivent plus à maturité aujourd'hui chez les arbres. Ils sont cueillis en avance, conservés, traités avec des produits chimiques pour les amener vite à mûrir avant d'être déversés sur le marché. Quand nous prenons les légumes, excusez-moi, je suis assez... Je ne suis pas âgée et vieille, mais moi, quand je consommais du ADME chez ma maman, ce que je consomme aujourd'hui, ça n'a pas le même goût. Tu sens carrément que c'est des organismes génétiquement modifiés. On parle de cycles courts, on parle de ceci, nanani, nanana. Les aliments n'ont plus le même goût que ce qu'on consommait lorsqu'on était auprès de nos parents, auprès de nos grands-parents et autres. Dans ces conditions, comment pensez-vous que ces aliments puissent assurer aujourd'hui notre bonne santé, qu'on ne se plaigne pas en disant que nous nous rassurons, que nous mangeons bien et que ça peut passer? Moi, c'est toute l'interrogation en question. Ces aliments n'assurent plus notre santé aujourd'hui puisqu'ils ne sont plus naturels. Les conservations, ça ne se fait plus dans les bonnes conditions. Bon, en quoi est-ce que ça assure notre santé? Ça reste une interrogation.
Estelle a tout dit. Estelle a tout dit. Et puis, tout ça, là, ça revient à ce que le confrère Sylvestre venait tout à l'heure de dire. C'est vrai qu'on doit manger naturel. C'est vrai qu'on doit consommer le fruit. Mais il faut faire extrêmement attention aussi. Elle a dit quelque chose de très important. Quand vous sortez tout à l'heure, au niveau de Anoukopé, c'est comme ça on a fait.
Justement,
ce qu'il a fait. Vous allez voir les mangues qui sont mûres, multimûres. Vous ne savez pas d'où ça sort. Et oui, sincèrement, de tout. Et si vous ne savez pas prendre, vous allez vous prenez. Moi, j'en ai fait une amère expérience au cours du mois de jeûne. Quand vous prenez une mangue, estimant que c'est une mangue qui est mûre arrivée, quand vous la taillez et vous voulez quand même la consommer, mais c'est la catastrophe. Ouais. Si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous prenez la maladie.
La peau est mûre, mais l'intérieur est blanchâtre.
On doit extrêmement faire attention. La population doit extrêmement faire attention. C'est vrai, on nous demande d'en consommer les fruits et autres, mais nous devons faire extrêmement attention. Mais ce n'est pas pour faire une mauvaise publicité aux gens. Moi, je préfère que chacun puisse préparer, préparer chez soi, tout chez soi. Ça, je crois que on réduirait un peu le risque.
Oui, hein, sauf qu'on achète les produits à préparer chez soi.
En faisant extrêmement attention à ce que nous achetons. On peut même cultiver, pourquoi pas. Aujourd'hui, les gens font du jardin, les gens
font des petits jardins.
Voilà. Donc, évoluons dans ce sens. Je ne fais pas une contribution pour ceux-là qui en vendent. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais aujourd'hui, la pratique, c'est quoi? Les gens chauffent de l'eau, les bonnes femmes chauffent de l'eau, elles versent sur la mangue qui fait à peine 24 heures et vous allez la voir
comme étant une mangue-mûre, mais quand vous la consommez, vous ramassez la maladie. Donc, nous parlons ici pour que la population puisse quand même prendre ses dispositions par rapport à ce que nous disons, par rapport à notre alimentation, parce que, quoi qu'il en soit, et quoi que nous fassions, notre santé, c'est la base, c'est ce que nous consommons.
Abbas, c'est vrai que nous allons revenir un tout petit peu sur cette question de l'hypertension aujourd'hui. C'est vrai, la maladie même d'ailleurs a été déclarée maladie de santé publique, et de telle enseigne qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro un de l'Africain, ce n'est plus le paludisme, mais l'hypertension. Alors, comment sommes-nous arrivés là, jusqu'à ce que aujourd'hui cette maladie ne fasse tellement ravage? Et est-ce que c'est toujours la consommation, c'est toujours nos aliments?
Oui, c'est nos aliments. Vous voyez, est-ce que depuis le temps de nos parents, vous avez entendu parler de tension et diabète? Non.
Non.
Il y a nos parents au village qui sont actuellement là, à 75-80 ans. Ils vendent la colline pour aller cultiver au champ. Par rapport au naturel qu'ils consomment. Quand vous vous déplacez aujourd'hui dans la capitale, c'est que vous allez voir ceux qui font la tension, même le diabète, c'est les jeunes, les plus jeunes qui vont aller s'acheter fast-food pour manger. Donc on a oublié ce que c'est que le naturel. Et on est en train de parler, celle-là dit ça tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas le fait d'aller manger les légumes autres. Ces légumes, comment ça grandit?
Quel genre de légumes nous consommons?
Les gens vont mettre des engrais qui ne sont pas adaptés. Et très souvent, même les laitues que les gens ramènent, ces laitues contiennent même des microbes dedans. Ils amènent pour préparer, pour que les gens mangent. Et ces laitues ou légumes qu'on a fait grandir avec engrais, vous voyez les conditions dans lesquelles ça a grandi. Mais on va, on les cueille, on les amène, on les expose au marché, on dit qu'on va, on mange le naturel. C'est pour cela que je félicite même les sympas publicités, notre confrère Jean-Paul Agbo, qui a créé cette histoire d'effacement pour que les gens s'habituent au naturel. C'est la marmite au naturel. Chaboulé l'a dit tout à l'heure. Si c'est qu'on pouvait l'occasion nous-mêmes d'avoir nos propres jardins, de préparer sans les engrais naturels, sans les engrais naturellement, comme ça se fait au village. Actuellement, quand il va au village, là, ce n'est pas les manques qu'on va transporter de Cara, de mon village là, pour amener, parce que les manques là qu'on cueille, on les met quelque part, on les couvre de feuilles pour que ça mûrit un peu, et on les achemine à Lomé pour vendre. Et quand ça vient à Lomé, là, le temps que ça prend, c'est que ça a déjà emmagasiné des maladies. Or, au village, quand vous cueillez en même temps, là, c'est directement sous l'arbre là que vous mangez, vous consommez les mangues là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont là, on sort parce qu'on a vu que c'est les légumes. On dit consommer les légumes. On va au marché, on pèle les légumes. On vient, on les prépare, on les mange. Ça, il faudrait qu'on contrôle notre alimentation. C'est ça qui est la cause du diabète et de la tension artérielle qui s'augmente de jour en jour. Chaque jour que Dieu fait, c'est le plus jeune. Les gens n'ont même pas encore 25 ans. Tu le vois, il est tensionné. Il n'a pas 30 ans et on dit qu'il a la tension. Et ça lui cause des problèmes. Il est diabétique, tout ça là. Ça lui cause des problèmes. Donc il faudrait qu'on revoie notre système de santé. Et on a parlé du sport. Et quand le gouvernement a institué cette journée nationale du sport par mois, au moins, même si on n'a pas le temps d'aller faire le sport, au moins, cette journée nationale, il faut sortir. Et après, toi-même, tu peux le faire chez toi à chaque fois, à chaque semaine, chaque week-end, tu peux faire ton sport là. Ça va diminuer. Et puis sur la tension, le diabète, c'est par rapport à ça. Si le sang ne circule pas bien, c'est si tout est coagulé, et qu'on se cherche aussi des problèmes par rapport à cette histoire de tension.
Oui, c'est vrai, beaucoup, c'est également important que le gouvernement est quand même institué la journée nationale du sport. Mais il y a également un facteur aussi à ne pas oublier, c'est le stress. Il y a le stress, il y a tout ce que nous emmagasinons. Lorsque vous n'avez pas une santé financière assez solide, vous voyez ce que cela peut aussi, ça peut également déteindre sur vous. Vous savez, lorsque vous êtes très souvent nerveux, vous n'êtes pas trop loin donc de l'hypertension. Vous voyez, c'est pourquoi je disais que c'est vrai que le gouvernement, quand même, puisse instituer la journée nationale du sport. Mais il faut également que le même gouvernement puisse revoir la situation économique du pays comme ça, on ne serait pas stressé, hein, on n'aura pas tellement donc de soucis à se faire, et là on serait bien portant pour aller faire le sport.
Mmh. Parce que la situation financière, hein, il y a aussi
d'autres
situations sociales, la famille et autres. Ta femme peut te créer le stress. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Donc, non, je veux bien parler.
Mais il faut préciser également que l'homme aussi peut créer le stress.
Je parle bien de l'intervention de Justifier. Je suis fier que Sylvestre ait abordé le sujet, parce que je me rappelle bien que lorsque le gouvernement instituait cette journée-là, il était le premier ici à critiquer. Il disait, il ne sait pas qui sont ceux qui donnent les conseils au gouvernement pour résister. Je me rappelle bien, c'est comme si c'est aujourd'hui, il le disait. Non, tout compte fait, c'est pour rire, pour dire au-delà de tout. Je pense que ce que nous sommes en train de dire ici est très sérieux.
Justement.
Est très sérieux, parce que la vitalité d'un pays dépend des bras valides que ce pays regorge. Si aujourd'hui les jeunes de 30 ans, de 20 ans, commencent par avoir de l'hypertension, qui sont ceux qui vont travailler pour que le pays puisse se développer?
Tout à fait. Donc,
franchement, c'est vrai, on a tardé sur le sujet, c'est parce qu'il est important. Et moi, je pense que ce que nous disons ici, ça va rentrer dans les oreilles, dans de bonnes oreilles, pour que chacun puisse faire et prendre ça en considération pour qu'on puisse évoluer.
Merci beaucoup, Saboré. Alors, pour de la santé à l'environnement, la transition est toute faite. Alors, Estelle, je reste avec vous. Je sais que vous avez quelque chose à dire, mais je reste avec vous. Alors, pour cette transition rapidement, environnement, vous titrez à la une alors de votre journal ce matin, Gazelle Info, contre les inondations à Lomé, prendre le taureau par les cornes. Alors, il est important aujourd'hui de prendre les taureaux par les cornes, c'est ce que vous estimez, Estelle?
Oui, c'est bien ça, mais permets-moi de faire quand même, de sortir vraiment du sujet dont on parlait tout à l'heure. La recommandation également, une des recommandations aujourd'hui, c'est d'avoir un petit jardin potager chez soi pour contrôler en fait la qualité des légumes, des plants qu'on élabore et tout. Mais et l'autre question également, c'est de savoir aujourd'hui les eaux de ruissellement. Si moi je fais de la culture bio chez moi et qu'à côté, quelqu'un utilise de l'engrais, l'eau, ça circule. L'eau prend donc les rudiments de son terrain et que ça vient dans mes plants, du coup, je n'ai plus un aliment bio. Donc, ça restait également l'interrogation. Nous sommes en train de jeter juste les idées comme ça, que les techniciens travaillent sur la question et nous disent à quoi s'en tenir aujourd'hui vraiment pour préserver notre santé, pour qu'on évite à très bas âge de traîner des maladies non transmissibles et tout ce qui s'ensuit porte entre aussi également au développement de nos pays. Maintenant, pour revenir à la manchette du jour, oui, contre les inondations, il faut prendre le taureau par les cornes. Nous avons essayé en fait de peindre aujourd'hui le tableau des inondations à Lomé. Nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes juste à l'entame de la saison pluvieuse, hein. C'est juste les premières pluies que nous accueillons. Mais quand vous faites un tour dans la ville de Lomé, les dégâts sont déjà énormissimes. Du coup, on ne doit plus se cacher derrière quoi que ce soit pour proposer des solutions à court terme ou à moyen terme. Il faut voir loin, établir des plans une fois de bon, en fait, ne serait-ce qu'à long terme. On a comme impression que quand le problème naît, on fait des analyses et séances tenantes, on dit, bon, si on fait ceci, ça peut régler le problème en attendant que la solution définitive ne vient plus. Et l'année suivante, on revient encore les mêmes choses. Ces histoires d'inondations, ça fait quand même des années que ça traîne à Lomé. Les retenues d'eau qui se débordent déjà dès les premières pluies. Donc, nous avons essayé de situer les responsabilités, toutes les personnes qui interviennent dans les chaînes de valeur pour que ce phénomène soit éradiqué à Lomé, pour proposer en fait des approches de solutions, que chacun de ces acteurs prenne ses responsabilités, voir en quelle mesure on peut arriver à éradiquer les phénomènes d'inondation à Lomé. Je suis parfaitement d'accord que la pluie ou l'eau, personne ne lutte contre ça. Si les canalisations ne sont pas bien faites, l'eau va se frayer, son chemin est passé. Mais par rapport à ce que nous vivons déjà comme dégâts, il faut s'apesantir sur ces fléaux-là et essayer de trouver des solutions définitives que nous proposons effectivement dans l'article. Donc, c'est à découvrir dans notre parution du jour.
Alors, Tchabouré, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui. Et nous avons les rétentions d'eau et tout, mais ces rétentions d'eau ne supportent toujours pas ces eaux qui arrivent. Et au finish, il y a l'inondation dans les quartiers.
Oui, je crois que, comme la consoeur l'a dit tout à l'heure, il faut prendre le taureau par les cornes. Si le problème persiste, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous permettez cette tautologie. Si le problème persiste, c'est qu'il y a un problème et que la solution n'a pas encore été trouvée. C'est vrai, il faut le dire. Il y a une agence qui a été créée et que depuis un certain temps, qui a fait un travail formidable. Ça, il faut le dire, qui en amont, déjà, commence par travailler. Nous avons vu également le gouvernement qui prend les dispositions pour pouvoir curer un certain nombre d'égouts avant l'arrivée de pluies. Moi, je pense que c'est insuffisant. Si le problème est toujours là, ça veut dire que les solutions qu'ils mènent, c'est-à-dire les solutions qu'on apporte, ne sont pas encore à la hauteur des problèmes qui sont là aujourd'hui. Il y a les retenues d'eau qui sont là. Mais à chaque pluie, ces retenues d'eau débordent. Ça veut dire qu'il faut revoir les choses. Et nous pensons et nous estimons qu'en ce moment, le gouvernement doit être en train de réfléchir. C'est vrai. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous sommes en train de critiquer le fait que les gens ont tardé, le fait que le problème a toujours perduré depuis des années et que les mêmes problèmes sont toujours là et qu'on n'ait pas trouvé une solution en ce moment. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir gros. Comme l'a dit la consoeur, il faut réfléchir grand, gros, pour qu'on en finisse définitivement avec ce problème. C'est vrai, ce problème ne peut pas être définitivement éradiqué parce que la pluie et autres, les phénomènes naturels, on ne peut pas se préparer à l'avance. On ne sait pas ce que demain sera fait. Même dans les grands pays qui se disent avoir toutes les infrastructures, il y a toujours de ces inondations. Mais je pense que le gouvernement doit faire quelque chose de concret. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, on l'a dit tantôt, depuis, on ne fait que proposer les mêmes solutions, mais les problèmes sont toujours existants. Et même ça s'aggrave. Ça s'aggrave. La preuve, c'est que nous sommes dans les premières pluies. Et le phénomène est grave. Qu'en serait-il d'ici juillet, août? On se pose la question. Moi, je pense qu'il faut prendre le taureau par le nez. Il faut commencer, il faut travailler là-dessus, sérieusement, pour que l'année prochaine, qu'on ne puisse pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne voudrait pas que l'année prochaine, qu'on revienne ici, si Dieu le veut, qu'on revienne continuer par parler des mêmes choses. Ce n'est pas bien.
Alors, et Sylvestre, c'est vrai que l'année passée, on en a parlé. L'année suivante, on en a parlé.
Et l'année d'avant.
Justement. Et donc, la routine continue. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas cette volonté de faire quelque chose qui soit définitif?
Vous savez, c'est le souhait de tout le monde. Je le dis, ça fait des années que nous parlons donc d'inondation à Lomé. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais l'impression, c'est que, bon, c'est comme si nous ne sommes pas assez écoutés. Parce que chaque année, on parle des mêmes choses. Si bien que parfois, on se sent, c'est-à-dire que c'est comme ça, ça devient monotone, c'est de la monotonie. On dit, on passe, l'année prochaine, on reviendra à la même heure, ou peut-être sur la même antenne, on parlera encore de cela. Or, la chance du Togo, c'est que nous ne sommes pas un pays enclavé. Et qu'on peut faire des canalisations au moins vers la mer. C'est vrai que nous ne sommes pas des experts. Mais quand vous prenez donc le bassin de rétention d'Agido Gomé au niveau de la Douane, je pense qu'ils ont fait une canalisation qui devait quand même suivre jusqu'au niveau de la mer. Parce que Agido Gomé, je crois, ils ont fait la canalisation pour arriver au niveau du bassin de Sevierpé. Et donc, du bassin de Sevierpé, on devait continuer jusqu'au bassin donc, de Casablanca et continuer.
Justement.
Mais vous arrivez au niveau de Sevierpé, vous verrez qu'il n'y a pas jonction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas continué. Voyez-vous, est-ce parce que je ne sais pas quelles sont les raisons. Et puis, il y a des experts qui sont là. Ceux qui s'y connaissent. Mais ça fait des années que nous parlons de ça. Aucun n'est au moins venu à une radio pour expliquer un peu le phénomène au Togolais. Mais ils sont là. À l'heure où nous parlons, ils sont là, dans leur bureau, bien vautré, cravaté, tout, ils nous écoutent. Mais ils sont là. À la fin du mois, on va les payer avec l'argent du contribuable togolais. Mais ils ne disent rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Au moins, venez dire, parlez au Togolais. C'est du fait donc de ce souci-là que nous avons. Et donc, donnez-nous au moins d'ici mai ou d'ici décembre, au moins on n'aura plus. Au moins, venez dire ça au Togolais. Mais personne ne le dit. Il y a un ministère qui est dédié à cela. Rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est comme si à un moment donné, bon, on se lève, on prend la douche, on vient à la radio, on parle, et puis ils sont là à nous écouter après. Bon, on ira prendre le dormir. Eux, ils sont là à la fin du mois. Ils auront donc leur salaire. Donc, à un moment donné, ça commence à monter. Vous voyez, ce que les gens donc d'Aïdo Gomé vivent là-bas au niveau donc de la clinique, il y a encore une clinique qui est là. La clinique bien-être qui est là.
et d'autres personnes qui sont là. C'est que les gens, ces gens-là vivent. Donc quand il n'y a plus, donc eux, ils doivent prier. Vous voyez un peu, à un moment donné, ça dézone. Et personne, de plus seulement, allez au niveau donc du carrefour de Lyon. Appelle une pluie, c'est fini, ça déborde, ça vient sur la voie. La dernière fois, j'ai sillonné un peu le lundi au niveau donc de la zone Adidoadé pour voir la manière dont les choses se passent. Mais c'est la catastrophe. Vous montez, vous prenez au niveau donc de l'hôtel Concorde, vous ne pouvez pas descendre au niveau de la station de Tortille. Et devant moi, il y avait trois véhicules donc de police. Il y avait un jeep et puis deux camions qui transportent les troupes. Mais le jeep est obligé de retourner, d'aller prendre part au niveau donc de la voie de Carrefour-Bojona. Mais parce que le camion, c'est un peu lourd et puis c'est haut, a pu traverser. Mais vous ne pouvez pas traverser. Vous voyez? Et donc, à chaque fois, on viendra dire la même chose. Mais on a l'impression que personne ne nous écoute. Même le ministre ne gagne même pas une conférence de presse pour nous dire, écoutez les amis, il y a le gouvernement a tel projet et donc d'ici telle période, au moins dans telle zone, on n'aura plus d'inondation. Et donc nous avons commandé un certain nombre de machines. La dernière fois, j'ai passé au niveau donc de CVP, j'ai vu que c'est maintenant, ils ont fait venir donc le groupe, tout ça là pour installer, tout ça. Mais vous voyez? Et c'est au moment, c'est dans la période qu'on le fait. Pourquoi on ne peut pas le faire en amont? Vous voyez, donc il y a tellement donc, de choses qui sont là, si bien que on a l'impression que voilà quoi. C'est-à-dire, vous parlez et puis bon, allez à la maison.
C'est vrai que tout au début de cette saison de pluie, il y a le ministre de la Sécurité, de la Protection Civile qui a alerté sur les inondations et tout. Est-ce que ça veut dire qu'au fin fond, il doit y avoir surtout une partition aussi de la population qu'elle doit jouer?
Oui, à chaque fois, il y a la météo aussi qui nous annonce
tout à fait
l'arrivée des pluies. Il faudrait qu'on prenne nos dispositions. Lorsque la pluie a commencé et puis il y a eu une inondation au niveau de la douane à Douvomé, nous avons titré les raisons pourquoi les rétentions d'eau lâchent. Parce qu'on ne peut pas construire de ces genres de rétention d'eau. Or, cette eau n'est pas faite pour rester dans les retenues d'eau.
Je pense même d'ailleurs qu'on en avait débattu, ici en studio.
Oui, donc cette eau n'est pas faite pour rester là dans l'eau, c'est pour continuer à aller quelque part. Et lorsqu'on met en place ce système, il faut des systèmes de pompage très puissants. Il faut des systèmes de pompage très puissants. S'il n'y a pas de système de pompage, c'est que l'eau qui tombe, ça reste là, ça ne continue pas. Il faut quelqu'un pour le diriger. Et comme ce n'est pas le cas, ça reste là. Et en plus, il y a la responsabilité aussi de nous, la population. Quand vous allez à la rétention d'eau de Lyon, aujourd'hui, quand vous voyez dedans, les gens sont allés jeter des ordures. Ils ont transformé ça en dépotoir. Ce qui veut dire que à moindre pluie, ça, les choses sont déjà bouchées. Les caniveaux qui devaient conduire l'eau sont déjà bouchés. Et c'est pour cela qu'à la moindre pluie, cette rétention d'eau-là déborde et s'en prend toute la route. Ça empêche même la circulation. Vous voyez, même au niveau de l'eau 2000,
c'est
la catastrophe. C'est dans son quartier là-bas. Oui. Donc c'est la catastrophe. Les gens ont transformé ces retenues d'eau aussi en dépotoir. C'est pour cela que j'ai dit que les responsabilités sont partagées.
Tout à fait.
Il faudrait que nous-mêmes, nous prenions conscience que ce que nous faisons, on a fait ceci là pour qu'on ne puisse pas avoir des inondations. Mais on voit que nous-mêmes, on transforme même les petites rigoles là qu'on nous a fait pour que ça circule. Il y a aussi des comportements inciviques qui sont adoptés. Donc il faudrait qu'on parle. À chaque fois que le ministère de la Sécurité, de la Protection Civile annonce également qu'il y aura beaucoup de
comment
on appelle ça. Et la météo également annonce, il faudrait qu'on fasse attention. Mais aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que le système de pompage d'eau, les moteurs, les machines qui sont là, qu'on doit acheter pour faire couler cette eau-là, puissent être amenées. Parce que là, à la dernière pluie au niveau de la douane de Dougoumé, on nous a dit que c'est le problème de pompage qui s'est posé. Et que ils avaient attendu voir les dégâts d'abord avant d'actionner. Et nous sommes dit, est-ce qu'il faut prendre les gens comme des cobayes avant de le faire?
Mais l'information, là, vient de qui?
On a fait des J'ai fait l'article là, la dernière fois. Nous en avions discuté.
Oui, on en avait discuté ici. Oui,
parce que les ingénieurs qui ont fait, parce qu'il faudrait.
Donc, les ingénieurs, ils ont fait des travaux.
C'est juste ça, on veut juste faire le sel. Est-ce qu'il fallait prendre les populations comme cobayes avant de pouvoir faire ça? Il faut en même temps faire tout et voir si ça ne marche pas. Mais si on ne peut pas attendre d'abord que ça ne marche pas avant de venir faire ces déclarations, donc il faut qu'on fasse attention par rapport même à ce que nous disons, par rapport à nos comportements. Parce que quand vous ne savez pas parler, vous risquez de vous mettre aussi dans le piège en même temps. Donc c'est une solution qui doit être faite. Ce n'est pas que dans les autres pays, il n'y a pas d'inondation. Il y a inondation. Avant, il y avait beaucoup plus d'inondation que ça. Mais maintenant, il faut qu'on commence par être, parce qu'on ne peut pas revenir à tout moment et chaque fois, et chaque année, et à chaque pluie, on parle aussi d'inondation. À chaque fois, on parle d'inondation et puis on ne trouve pas de solution.
Mais il faut aussi tenir du compte. Il faut aussi tenir du compte du fait que la population de Lomé s'agrandit également. Il y a d'autres zones inondables qui se créent. J'ai comme l'impression qu'il y a d'autres zones qui sont carrément oubliées. Je veux parler de la zone Vaposito, entreprise de l'Union. C'est bien qu'on en parle. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez emprunté une fois, vous arrivez au niveau de l'entreprise de l'Union. Et vous terminez le goudron et vous continuez jusqu'à Sigomé. Mais mes amis, c'est la catastrophe. Pourtant, ce sont les gens qui...
Ils ont des problèmes là-bas. Je ne comprends pas la parole. En saison pluvieuse, ils ont la pluie. En saison sèche, c'est le sable.
Maintenant, j'ai l'impression que ça donne, on a comme l'impression qu'aucune autorité ne tente de visiter là-bas. C'est abandonné carrément. Donc, c'est le lieu et c'est l'occasion pour que le ministère du transport, du ministère de transport et d'autres ministères, tous les acteurs impliqués puissent quand même visiter, voir s'il y a possibilité de trouver quand même une solution à ce niveau. Franchement, et puis ce que vous ne savez pas, moindre pluie, même s'il goûte un peu, vous arrivez, ce qu'il y a inondation, c'est-à-dire que l'eau envahit la route, vous ne pouvez pas emprunter la route.
Donc c'est un endroit déjà inondable.
C'est un endroit inondable et c'est des nouveaux quartiers. Donc c'est pour dire que d'autres sites inondables sont en train de surgir. Il faut que le gouvernement vraiment trouve une solution de façon globale. Quand vous passez, vous arrivez au niveau de l'entreprise de l'Union, vous regardez à votre droite, mais attends, une petite pluie, tout. C'était une route en réalité qu'on appelait route de la CEDEAO, mais vous arrivez là-bas, mais c'est une mare. Et c'est de n'importe quoi.
La route, là, n'existe plus.
Ça n'existe plus. Et nous parlions tantôt. Quand ça se passe comme ça, c'est les maladies que ça crée tout autour. Donc, franchement, que les autorités puissent prendre en compte cette situation au niveau de Vaposito à Sigomé. La route Vaposito à Sigomé. Je précise que Madame la ministre Zouera, si elle nous écoute, qu'elle aille au moins faire un tour et voir ce qui se passe. C'est triste pour les populations. Oh, c'est une grande population qui se déplace pour aller en ville pour leurs occupations. L'autre fois, j'ai assisté à un accident. Justement, à un accident où un véhicule, un taximan est allé cogner, justement parce que la situation n'était pas favorable pour la circulation.
Non, moi, je dis, le problème que nous avons à Lomé aujourd'hui, il faudrait qu'on soit dans l'anticipation. Il y a souvent dit, gouverner, c'est prévoir. Il faudrait qu'on soit dans l'anticipation. Les problèmes que nous avons aujourd'hui à Lomé avec les inondations, je vous dis, si rien n'est fait dans les nouveaux quartiers que nous avons, nous aurons dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans les mêmes problèmes. Parce qu'il faut un plan d'urbanisation. Il faut un plan d'urbanisation de la ville. Parce que Lomé, c'est vrai qu'on a tout raté, si je peux le dire. C'est maintenant qu'on passe. Hein, on essaie donc de réadapter les choses parce qu'il y a tellement d'habitations. S'il faut casser et tout, il faut aussi dédommager les gens. Donc, c'est en termes donc, de milliards qui doivent agir. Donc, il faut déjà penser aux nouveaux quartiers que nous avons. S'il n'y a pas un plan, voir où est-ce qu'on peut faire les rétentions d'eau, où, si nous ne posons pas déjà ces questions, je vous dis, je ne sais pas. Nous aurons les mêmes problèmes là. Donc il faudrait qu'on soit dans l'anticipation. Et je l'ai toujours dit, il faudrait le ministère de la prospective, tout ça. Donc il faudrait ce genre de choses pour dire dans 20 ans, qu'est-ce que nous voulons avoir dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Il faut être dans l'anticipation. Mais si, on vit presque au jour le jour, mais demain nous serons composés donc au même problème. Voyez-vous donc que nous demandons véritablement au gouvernement, hein, même si eux ils vont passer, l'État c'est la continuité, mais on sait qu'il y aura déjà un plan directeur qui est là, et celui qui vient ne peut que suivre cela. Voyez-vous, donc et monsieur le gouvernant, et bougez quoi, bougez, on veut véritablement vous sentir, hein, et que vous mouillez le maillot, hein, parce que vous savez, il y a le remaniement qui vient bientôt. Hein.
Merci beaucoup, Sylvestre.
Il y a un autre phénomène aussi très grave qu'il faut chercher à prévenir. C'est le problème de ces gros arbres et vieux arbres qui sont tout le long au bord des voies. Si on peut les couper, les reboiser, ce serait mieux. Parce que vous avez vu la dernière pluie où la police était obligée d'alerter
les branches ont lâché.
Les branches ont lâché. Le Casablanca, ça a lâché. Ce n'est même pas là-bas seul, dans d'autres quartiers aussi, où ces gros arbres sont là, très vieux, qui poussent
au niveau du boulevard,
campus, voilà.
L'ambassade des États-Unis,
justement.
Si on peut les reboiser, il y avait même un arbre qui aussi sur. C'était l'année dernière, sur les pavés de Jolet, il y a deux qui sont tombés sur des voitures comme ça. Donc il faudrait qu'on les coupe, parce que c'est, on a fait les pavés sur ça. Vous avez vu que les racines même soulèvent même les pavés, ce qui veut dire que c'est en train de tomber. Mais il faudrait qu'on fasse attention. C'est la sécurité des populations qui est en jeu là.
Et c'est vrai qu'il y a certaines zones, telles que Taboret le disait maintenant, qui sont des zones déclarées inondables. Quand vous prenez même d'ailleurs des quartiers comme Adakpame, Saouleto, vous prenez Adamavo, Mayakopi, et pratiquement c'est des gens qui connaissent chaque année. Et ces inondations, c'est vrai que il y a des quartiers à Lomé qui font les frais, bien évidemment, mais ces quartiers, chaque année, doivent s'attendre à leur inondation. Mais finalement, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour eux.
Oui, c'est tout ce qu'on a décrit en fait dans notre article. Les responsabilités ont été situées à trois niveaux. Hein. D'abord au niveau du gouvernement, au niveau des populations et puis au niveau des municipalités également qui doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui. En ce qui concerne les populations, on l'avait déjà dit la dernière fois, il faut se renseigner. Ça reste mon avis personnel, ça reste mon analyse, mais je ne sais pas avec le pouvoir d'achat du Togolais, est-ce que ça vaut la peine que je prenne le peu d'argent que j'ai pour aller acheter mon terrain dans une zone inondable? Je ne peux pas y vivre et dans 2 ans, dans 3 ans, je suis obligée encore de me saigner pour aller prendre un autre terrain quelque part. Il faut que la question commence par là. Essayons de prendre les renseignements, essayons de vérifier les choses. C'est là où la responsabilité des mairies également intervient pour accorder le permis de construire. Je crois que toutes ces enquêtes doivent être menées sur le terrain. Là, nous voulons accorder le permis de construire à la personne. Est-ce que c'est une zone inondable? Est-ce que dans 2 ans, ça ne devient pas un problème pour nous, pour l'assainissement, pour les canalisations, pour l'évacuation des eaux, tout ce qui s'ensuit? Avant d'accorder le permis de construire, on ne va pas juste compter sur nos 100 francs fois la parcelle, la superficie de la parcelle demandée pour délivrer le permis de construire. Au niveau du gouvernement, oui, il faut être dans l'anticipation. Les retenues d'eau sont là, comme l'a expliqué Abbas tout à l'heure. Enfin, les retenues d'eau ne sont pas censées contenir l'eau sur une longue période. Donc, ça doit être une activité permanente où à chaque fois que les eaux sont recueillies, on doit les pomper pour les canaliser vers la mer et préparer encore cette retenue pour la saison à venir. Mais force est de constater que à chaque fois que l'eau est en fait l'eau stagne dans les retenues d'eau, c'est resté comme ça jusqu'à ce que la saison n'arrive et dès les premières pluies, ça commence pas à déborder. Donc il faut curer en fait ces retenues d'eau là, voir et mener des études à long terme pour voir la profondeur qu'on peut donner à ces retenues d'eau. Je reconnais également que la nappe phréatique fait souci par endroit, mais tout ça c'est des études techniques qu'il faut faire en amont pour pouvoir trouver des solutions idoines et épargner ces populations là de tous ces fléau qu'ils vivent chaque année. Donc, les populations doivent mener également leurs enquêtes, leurs investigations avant d'acheter leur terrain. Si le gouvernement sait que cette zone est déclarée inondable sur la base des études, mais il faut chasser les populations, il faut leur expliquer le bien fondé de la chose, il faut leur expliquer, dire ça ne fait pas du bien que vous occupiez cette surface-là. Donnez-nous le temps de trouver une solution et après vous pouvez revenir. Il y va de l'intérêt des populations et du gouvernement même. Et maintenant, au niveau des populations, essayons d'avoir également des comportements responsables vis-à-vis des infrastructures dans les zones où elles sont installées quand même. Force est de constater également que par endroits, on déverse des ordures dans les égouts, dans les canalisations et autres. Ça ne nous arrange pas. Donc ça bouche tout de suite ces canalisations-là et dès que les premières pluies s'annoncent, bonjour les dégâts, quoi. C'est un peu ça.
Une police municipale, pourquoi
pas? On les appelait les tangassi à l'époque qui circulaient dans les maisons pour assurer justement.
Vous verbalisez tout, et puis, mais vous si vous on assumez. Pas de 10 personnes, le reste va rester droit dans
le oui, et il faut également un plan d'urbanisation et d'assainissement de la ville de Lomé. Sans ça, comme l'a dit Sylvestre tout à l'heure, les mêmes problèmes reviendront dans les localités, les nouveaux quartiers qui se développent dans les périphéries. On vivra le même problème les prochaines et années. Attends. Et oui, même pire, si on ne prend pas garde.
C'est le cas de Vaposito et choses.
Ça me tient à cœur.
Puisque, non, c'est un quartier qui a trop de problèmes, sincèrement.
Plus que les autres.
Non, pas plus que les autres, mais
d'ailleurs, la voie s'arrête
à un niveau, et maintenant, l'inondation prend, en plus du fait que la voie n'est pas goudronnée. Franchement, madame la ministre, excusez-moi de vous interpeller. Si vous pouvez quand même faire un tour dans ce quartier pour voir ce qui se passe, ça va être très intéressant.
Ça va être vraiment très intéressant. Nous allons quitter le sujet. Je sais que c'est un sujet très intéressant, mais nous allons rester toujours dans les sujets de société. Quand je jette un coup d'œil à la une de La Machette, le journal de Sylvestre Béni, ce matin, nous parlons économie. Sylvestre, vous titrez à la une de votre journal « Pièces et billets ». Alors, dégradé, BCAO, nécessité d'une opération foraine des échanges.
Explication. Oui, c'est un problème également qui, ma foi, risque de conduire à une situation désagréable si on ne prend garde. Au Conseil des ministres, je crois, il y a l'année dernière, je crois, le ministre de la communication, professeur Ayoada, Akoda Iwadam, donc avait évoqué la question et disait en fait qu'il y a une législation qui demande à ce qu'on ne puisse pas interdire des billets qu'on estime limés, usés, dégradés, mutilés, tout ça, parce qu'il y a une loi qui punit, je crois que c'est l'article 1105 donc, du code pénal, il y a une loi qui punit ceux qui refusent ces billets-là. Maintenant, en novembre 2022, il y a la BCAO également qui a sorti un communiqué.
Tout à fait.
Bien avant donc le gouvernement togolais qui dit que les billets tachés, les pièces et tout ça peuvent être changés à ces guichets gratuitement. Alors, mais le phénomène que nous avons aujourd'hui, vous allez au marché, les pièces de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs sont systématiquement refusées par les bonnes dames. Pas uniquement les bonnes dames, mais par les commerçants et les commerçantes. Parce que les gens ont tellement de motifs. Ce qui devient aujourd'hui un peu plus compliqué, c'est que il y a la superstition qui entre en jeu. C'est-à-dire que on dit que lorsque vous voyez aussi parfois des sacrifices qui sont faits au carrefour, tout ça, c'est avec les 5 francs, les 10 francs, tout. Donc, ces femmes-là, où les commerçants disent que ceux qui acceptent ces billets, ces pièces sacrificielles, c'est ce que vous le prenez, c'est que vos affaires ne marcheront plus. Vous voyez? C'est-à-dire que vous prenez 5 francs, tout ça, et quelqu'un qui vous donne 5 francs, vous prenez l'argent, c'est fini. Il n'y a pas si balatron, quoi. C'est-à-dire que vos affaires ne marcheront plus. Donc, systématiquement, les gens refusent ça. Maintenant, à ce qui concerne les billets, même si vous prenez le billet, qu'il y a une partie qui est un peu mutilée, ou c'est l'encre donc des bics et tout ça, qui est versée un peu sur le billet, les gens ne prennent pas. Maintenant, comme la BCAO dit, non, ces pièces-là ont encore, et ces billets ont encore de la valeur, on peut les échanger à leur guichet. Mais je me dis, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès au guichet de la BCAO. Alors donc, le mieux, ce que nous nous proposons aujourd'hui, c'est que il faudrait qu'on organise une opération foraine. On choisit quelques gars, même les banques, même les banques refusent ces billets. Avant, c'est quand vous avez ces billets-là qui sont un peu sales ou mutilés, vous allez donc au niveau des stations d'échange, des stations d'essence, pardon,
vous pouvez prendre du carburant, eux, ils le prennent. Mais aussi, maintenant, eux aussi, ils refusent. Donc, et les banques et tout. Donc, tout le monde refuse ces billets. Il y a quelqu'un que nous avions vu qui dit que lui, il en a tellement ces billets-là, il ne sait pas s'il va faire un musée pour que les gens viennent voir. Donc, le mieux à faire aujourd'hui, c'est de prendre peut-être quelques banques sur toute l'étendue du territoire national, qu'on organise donc une opération foraine des échanges, puisque c'est gratuit. Si tu as 5 000 qui est taché ou mutilé, tu amènes, on te donne donc un nouveau billet de 5 000 et tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Donc, qu'on organise cela pour qu'on puisse au moins un temps soit peu absorber ce qui est là aujourd'hui, puisque beaucoup en ont, ils ne peuvent plus l'utiliser. Qu'on puisse l'absorber un peu et bon, et d'aventure, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Parce que nous sommes dit, il faut être toujours dans l'anticipation. Ces problèmes de billets, de pièces peuvent même conduire à mort d'homme. Pourquoi nous le disons? C'est-à-dire que vous n'avez que 1000 francs dans votre poche le jour-là. Vous voulez prendre quelque chose, peut-être que c'est à 1000 francs, vous donnez ces 1000 francs, on dit non, je ne peux pas, donc changez-moi le billet. Si vous aussi, vous n'en avez pas, que c'est le seul billet que vous avez, là, bonjour les dégâts. Et quand on parle de dégâts, on parle de bagarre. Quand il y a bagarre, il peut y avoir moins d'hommes. Voyez-vous, donc, il faudrait qu'on soit dans l'anticipation. Et c'est pourquoi je demande surtout à la BCAO, puisque la BCAO a sorti un communiqué pour dire, nous, on peut échanger ça gratuitement. Donc, ils prennent les dispositions pour que cela se fasse. Quoi.
Voilà. C'est un problème sérieux, un problème d'ordre social, parce que, du moins, on fait le constat. Hein, tout comme Sylvestre l'a dit, on fait le constat aujourd'hui. C'est même d'ailleurs, ça constitue un problème de bagarre entre même d'ailleurs des citoyens.
Ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet-là. Plusieurs fois, on en a parlé ici. La BCAO elle-même avait fait sortir deux communiqués par rapport à ça pour dire que on ne peut pas refuser les pièces, ces pièces, ces billets, ces pièces, parce que c'est sa propriété. Et ça circule. Quand une pièce ou bien un billet circule, c'est que à un moment donné, il devient limé ou bien le billet même devient froissé. Ce n'est pas parce que nous-mêmes, on ne frappe pas notre monnaie qu'on refuse. Quand vous allez au Ghana, la pièce ou bien le billet peut être froissé n'importe comment, c'est qu'il est utilisé.
C'est accepté.
C'est accepté. Mais ici, vous allez voir, vous allez au marché, vous allez vouloir acheter quelque chose à manger, vous remettez l'argent, la bonne dame va vous dire non, qu'elle ne peut pas accepter. Qu'elle en a beaucoup même accepté, ça est dans sa chambre, on ne sait pas comment faire. C'est pour cela que je dis, l'article de Sylvestre est une bonne chose si on peut le prendre en compte. Parce qu'en temps, lorsqu'on nous a dit qu'on veut changer les billets de 500 ou bien 2500, en même temps, ça a disparu. On a injecté d'autres billets, les nouveaux billets qu'on a fabriqués et les billets de 250 vient de chance, on a injecté. Ce qui veut dire qu'on a repris les anciens 500 francs et 1000 francs qu'on n'utilisait plus. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Organiser une situation foraine où on demande à certaines banques, vous prenez ça et vous nous ramenez. Ça peut éviter certains problèmes que nous vivons, puisque quand vous allez vous donner, moi j'arrive à acheter à manger, je te donne 500 francs, tu dis que alors que c'est la seule pièce que j'ai dans ma poche. Où est-ce que je vais trouver pour te donner? Et vous allez vous prendre l'école. Parce que à
quoi j'étais à manger d'abord avant de payer. Hein? Souvent, il faut acheter à manger avant de payer.
Payer avant de manger.
Donc, tout ceci, là, il faudrait qu'on puisse trouver une solution à ces anciens billets-là. Parce que pour le moment, c'est la BCAO qui nous fait, qui nous frappe la monnaie, là. On n'a pas encore la possibilité, nous, ici, de frapper nos propres monnaies. Donc, la BCAO puisse prendre cette disposition pour voir dans quelle mesure, où ça, on peut arrêter cela. Interpeller ceux-là qui refusent l'argent parce qu'ils ont dit avec qu'il y a des sanctions qui peuvent s'en suivre, ou soit on les récupère et puis on permet aux gens de vivre normalement. Quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui prendre plutôt des mesures disciplinaires pour que du moins ce phénomène soit arrêté?
Oui, mais avant d'aller au niveau des mesures disciplinaires, il faut commencer par la sensibilisation. Il ne suffit pas de sortir juste des communiqués pour dire que, bon, on doit prendre les billets, on doit prendre les pièces usées. Ça ne s'arrête pas là. Je crois, à mon humble avis, qu'il faut une véritable campagne de sensibilisation puisque le phénomène devient criard. Ça, il faut le dire. Chaque jour, pratiquement, tu vois ça dans la rue, tu rencontres ça au marché. Tu tends un billet, la bonne dame dit non. Et puis, avec une manière un peu... condescendante, là, que non, c'est catégorique, quoi. Tu essaies de lui faire entendre raison et dire, n'y est-ce pas question que ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et aujourd'hui, même dans les stations-service, malheureusement, elle commence également par refuser ses pièces usées, ses billets usés également. Donc, on doit commencer par la sensibilisation. Il appartient à la BCA aujourd'hui, en plus des communiqués qu'elle sort, de sensibiliser les populations pour expliquer le bien fondé de les raisons qui doivent motiver à prendre les pièces. Ça, nous n'avons pas le droit de propriété sur les pièces, c'est pas nous qui les frappons. Et je me demande même d'où est parti ce phénomène-là de refuser. Il semble que c'est un peu religieux. Il semble que c'est un pasteur qui aurait inventé justement quelque chose comme ça. Et depuis, toutes les bonnes dames surtout, elles y croient. Et puis, c'est rentré dans la superstition. Et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, dans un premier temps, sensibiliser les populations et tous ceux qui utilisent les monnaies, les billets. Et ensuite, procéder maintenant par la répression s'il le faut. Si on essaie de prendre une, deux personnes qu'on punit publiquement, les autres vont comprendre que ça devient sérieux. Et en plus de ça, quand on dit qu'on peut porter plainte, où est-ce qu'on peut aller porter plainte? Est-ce que c'est dit? Est-ce que n'importe qui peut se lever et aller à la BCA aujourd'hui, je viens porter plainte? C'est qui notre répondant là-bas? Comment est-ce que ça doit se faire? Il faut qu'on nous dise comment ça va se faire pour qu'on puisse porter plainte. Donc, il y a une communication, il y a une véritable...
Il y a une loi, je crois, le code pénal, l'article 1165.
Oui. Voilà.
Donc, là, tu peux au moins saisir la justice.
Justement.
Mais bon, saisir la justice pour combien?
Justement, c'est aussi ça. Donc, il y a une campagne de communication qui doit s'ouvrir, qui doit entourer ces communications.
Moi, je fais une similitude de cette situation avec le phénomène d'inondation, où chaque fois, chaque année, on ne fait que parler, mais rien ne fait, rien n'est fait. Oui, la preuve, c'est qu'il y a de cela 2-3 ans, on a parlé de ces billets,
tout
de
ces
pièces refusées. L'année passée, on en a parlé, cette année, on en parle.
Parce que c'est un phénomène social.
Mais on a comme l'impression que la BCAO ne fait rien. Elle se limite seulement au communiqué. Ce qui n'est pas intéressant. On dit que tu peux porter plainte, les confrères l'ont dit tout à l'heure. Tu vas aller porter plainte devant qui? Et ça va avoir quel effet? Mais tu ne peux pas te lever comme ça et aller, tu écris à la justice, tu dis bon, je porte plainte parce que tel a refusé. Moi, je pense, il y a des propositions qui ont été faites là-dessus et que c'est bien que le confrère soit revenu sur le sujet. Je pense que la BCAO a des moyens. C'est la BCAO. Oui. On dit c'est la Banque Centrale. Mmh. C'est la BCAO. Elle peut faire une campagne de communication sur toute l'étendue du territoire. Et cela, dans presque toutes les langues, même dans différents dialectes de notre pays, pour sensibiliser la population et attirer la population sur le fait de refuser, vous encourez évidemment des
sanctions.
Les sanctions. C'est très important. En plus, s'organiser pour qu'en fait, comme on le dit, que la loi punit, pour que s'il y a un qui est pris, que la personne soit punie pour servir de leçon aux aventuriers. Donc, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de sortir des communiqués. Nous disons ceci. Attends, combien savent lire? Il faut faire une véritable campagne dans toutes les langues, sur toute l'étendue du territoire national, pour permettre à tout le monde de comprendre le bien fondé de ne pas refuser cette pièce.
Merci beaucoup, Djaboré. Les auditeurs nous ont écoutés. Maintenant, nous allons leur donner aussi la parole pour les écouter. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et on revient. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, et maintenant vous avez sans doute compris que nous allons vous donner la parole pour vos questions, vos interventions dans l'émission Club de la Presse sur des sujets qui ont été débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Oui, bonjour chef.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, c'est Sylvain.
Sylvain, voilà. Allez-y.
D'accord. Et pour ces histoires de... comment vous l'appelez, les billets usés, les pièces de 10 francs, 15 francs. Franchement, ça posait un problème. Ça m'est arrivé même hier.
Ah bon?
J'arrive au grand marché, j'étends un billet de 1000 francs, bien propre, bien brillant. à une femme, j'achète l'oignon à 500 francs. Au retour, elle me tend un billet troué de 500 francs. À côté, il y a une dame qui va à la tomate, j'étends le même billet de 500 francs, elle me dit, elle ne prend pas. Et je dis, c'est tout de suite que votre seconde vient me donner. Elle me dit de lui remettre ça, car elle ne va pas prendre. Ça pose un problème toujours. Ça, chaque jour, ça pose un problème. Sauf que la BCAO revoit sa copie. Et puis de deux, il y a un phénomène tout de suite là. Quand vous allez au niveau du CG Boca, je ne sais pas si c'est un tuyau qui est troué. Franchement, le sort, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour.
À quel niveau?
Pardon?
À quel niveau?
Côté nord du CG Boca. Ça sort, quand moi j'ai vu ça, j'ai eu peur, parce qu'avec ma forme là, si l'eau là me prend, c'est fini pour moi. Il faut que la TDE fasse un déplacement pour aller constater. Même si c'est un tuyau qui est troué, je n'ai jamais vu ça. Bon, merci.
Merci beaucoup, Sylvain. 22-21-33-114, allô?
Oui, bonjour le plateau.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, chez vous.
Ça va aussi, le nom s'il vous plaît?
Oui, c'est Benoît Dagouet.
Benoît Dagouet, allez-y Benoît.
Oui, je suis un peu surpris que vous n'avez pas parlé du relancement de l'enrôlement pour la carte de lecteur. Mais moi, je voudrais dire que pour la chose d'inondation à Lomera, vous savez, c'est la faute à qui? Au gouvernement. Je me pose une question. Son Excellence Faure Estosina Nyasimbe a été élu pour diriger le Togo, ou bien il a été élu pour dire pas trop. Je cherche la réponse que je n'arrive pas à trouver. Je sais qu'il est le chef de l'État, c'est lui qui dirige le Togo, mais ça ne va pas. Parce que les gens qu'il faut, qui travaillent, il n'y a pas. On n'a jamais puni quelqu'un qu'on lui a donné ce travail et il n'a pas achevé le travail et on l'a emprisonné ou bien on l'a limogé. Non. C'est vraiment dommage que nous soyons dans un pays comme ça. Je suis désolé. Et aussi, pour terminer, je dis bravo au gouvernement et à la CENI. Bravo. Félicitations, merci.
Merci beaucoup, Benoît. 22-21-33-74-91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Le nom, s'il vous plaît?
Maoulaoué.
Vous nous appelez de quel quartier?
Je dis comment vous allez.
Ça va. Et chez vous?
Ça va bien, c'est Patrick.
Ah, Patrick?
Oui.
Voilà.
D'accord.
Allez-y.
Mon frère, moi, je me pose une question aussi. Hein. Si, par exemple, nous ne sommes pas à jour au niveau de nos TVM, on nous arrête, on nous donne même un délai. Si nous ne sommes pas à jour...
Patrick!
Ouais, je vais diminuer.
Uh-huh, voilà. D'accord.
Voilà. Si nous ne sommes pas à jour au niveau de nos visites techniques, on nous arrête. Maintenant, pourquoi l'État lui fuit sa responsabilité? Ce n'est pas un citoyen qui va aller résoudre ce problème du drainage d'eau dans les bassins. Il y a une instruction. Mais voilà, nous, eux nous arrêtent si nous ne sommes pas à jour. Et quand eux ne sont pas à jour, comment on va les faire? Et ça, c'est l'interrogatoire, quoi. C'est comme si l'État fuit sa responsabilité. Tout ça, là, eux-mêmes, ils sont, ce n'est pas qu'ils sont ailleurs, ils gouvernent le pays, ils sont dans le pays. Ils voient la réalité. Mais comment nous allons faire? Alors, ça, c'est un de deux. Concernant ce que vous avez discuté à propos des aliments, des produits chimiques qu'on utilise là.
Tout à fait.
Mais vous devez aussi comprendre que nous ne sommes plus en 1960 ou en 1955. Mais la population a considérablement augmenté. Et si nous voulons manger toujours bio, vous pensez que la planète peut se nourrir? Non, je dis non. Mais il faut des produits chimiques. Maintenant, là, moi, ma question est de savoir... À côté de cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour au moins enlever tout ce que nous avons consommé comme chimique? Et là, vous l'avez si bien dit, mais dire qu'on va chercher à manger bio, ça serait impossible. Tout le monde ne peut pas manger bio, mais la solution, eh bien, c'est le sport. Je vous dis, c'est le sport. Quand vous transpirez là, au moins 90% des déchets que vous avez consommés sortent. Donc, c'est ça que je veux conseiller à tout le monde. Quoi.
Patrick, merci beaucoup. 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Papa Sodiné. Comment vous allez?
Oui, ça va.
Allez-y.
En ce qui concerne les pièces ou les billets usés, là, vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur. Et surtout, le gouvernement doit penser à ça. Sinon, même 500 ou 1000 francs peut tuer quelqu'un. Si c'est ça que vous allez, on refuse de prendre ça, même vous voulez acheter un médicament. Voilà ce que ça peut donner. Mais c'est que ça que ça peut. Même si vous le prenez, vous dites que bon, il y a une loi que la BCE a fait sortir un communiqué, vous le prenez. Chez qui vous allez l'utiliser après? Donc, on n'a qu'à essayer de penser à ça. Bonne journée. Merci.
Merci. Bonne journée à vous aussi, Papa Sodiné. 22 21 33 114. Allô?
Ouais, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oh, par la grâce de Dieu, hein.
D'accord, Dieu merci. S'il vous plaît, c'est quoi?
C'est l'évangéliste Senghor.
L'évangéliste Senghor, allez-y.
Bon, s'il vous plaît, excusez-moi, je voudrais aller un peu en arrière, là. Hier, vous aviez invité un professeur qui nous avons coulé les larmes. Bon, j'ai essayé quand même de rentrer dans la ligne, mais bon, juste, c'est pour dire à tous ceux qui sont autour de notre président Faure Gnassingbé et qui ont un esprit de zèle, excusez-moi, mais comment est-ce qu'on peut licencier une personne qui est en train de souffrir avec sa famille, il n'arrive même pas à pouvoir manger, au même moment les gens ont détourné de l'argent et ça dit que je sais comment dire. Donc c'est pour dire ici, en tant que un serviteur de Dieu, le mandat, que tu sois musulman, que tu sois franc-maçon, que tu sois quoi, je ne sais pas, il faut qu'on sache que la vie ne s'arrête pas ici. Il y a encore une autre vie. Et que tout ce que nous posons comme des actes, tout ce que nous faisons, moi je vais manger, quelqu'un va pleurer, à moindre chose, je vais le punir, je vais quand même faire chose, il y a un retour, s'il vous plaît. Il faut que vraiment ceux qui nous dirigent comprennent ça. Licencier une personne d'une manière. Comme ça, on dit qu'on est en train de le punir et mettons la balle à terre. S'il vous plaît, je suis en train de m'adresser directement à nos autorités. C'est Dieu qui les a institués là-bas, mais ils n'ont pas de responsabilité. Après tout, les Togolais ne sont pas des animaux, nous sommes des hommes comme eux. Mais Dieu est là. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, évangéliste Senghor. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, ça va.
Le nom, s'il vous plaît?
C'est Nestor.
Nestor, oui. Vous appelez de quel quartier?
Quartier administratif.
Quartier administratif, allez-y.
Oui, concernant nos carnivaux là. S'il vous plaît.
Oui.
Ce n'est pas les juniors qui ont fait ça.
Pardon?
Sinon, comment se fait-il que là où ils ont fait les carnivaux, c'est là où se trouvent nos problèmes? Il ne faut pas qu'ils cherchent toujours à manger. Si on débloque l'argent pour faire un bien public là, ils n'arrivent pas à gérer ça. Ils comptent d'abord leurs proches et ils font de n'importe quoi. Et après, toute la population souffre. Ce n'est pas normal. Ils savent que... tout ce qu'ils font là, il y a après ça. Merci.
Merci beaucoup, Nestor. 22 21 33 114. Allô?
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je vais super bien.
Le nom, s'il vous plaît?
Appelez-moi Komivichem.
Komivichem.
Je vous appelle depuis Toti.
Oui, Komivichem, allez-y.
Et il y a un de vos confrères qui a parlé de notre quartier, parfois Tito. Mon frère, on souffre tout là-bas.
Ah bon?
On souffre trop là-bas. Mais on paie les taxes. Si c'est le Caterpillar qui va chercher pour arraser les routes pour qu'on peut circuler, ils n'ont qu'à penser à ça. Sinon, dans tous les coins de notre quartier, devant notre portail, mon frère, c'est la croix et la bannière. Quand tu quittes l'entreprise de l'Union, présentement, pour voir à Zosimela, si ta femme a un set dans ce quartier-là, il ne faut pas la laisser passer, emprunter la voie là.
Sinon?
Sinon, la grossesse va écouler, mon frère. C'est difficile et c'est situable dans une capitale. Courage aux Togolais et la population de Vakwa Sito. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Komi Vichy. 22 21 33 114.
Allô? Bonjour, ma radio.
Oui, bonjour. Diminuer.
C'est Basile.
Basile.
Oui, oui.
Basile, diminuez le volume de votre poste récepteur.
Ouais, j'ai quitté parce que je ne veux pas diminuer, j'ai quitté ça.
Voilà, d'accord. Et allez-y.
Ça peut aller.
Ça peut aller, allez-y.
Non, ne vous leurrez pas. Tout ce que vous et que moi j'ai entendu, c'est la logique. Parce que quand les gens sont là et qu'ils ne veulent pas partir, il faut passer par tous les moyens. Assujettir les gens par tous les moyens. Nous, on va dans les autres pays, personne n'a refusé les billets, les pièces. Mais au Togo, quand tu achètes, on dit que non, 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 non. Est-ce que dans les autres pays là, je veux citer Ghana, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, c'est les autorités qui ont dit aux gens là de ne pas refuser les billets, non? C'est une sensibilisation de bonne foi. Mais ici, comme on a dit qu'il faut assujettir les populations par tous les moyens, regarde celui qui dit que si tu n'as que 500 francs ce jour, tu t'en vas, tu achètes, on dit qu'on ne va pas prendre. Tu vas devenir quoi? Mais si on te dit, viens prendre 1000 francs, viens prendre 500 francs, pour dire oui, il faut dire non. Mais tu vas dire quoi? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Merci.
Merci beaucoup, Basile. Je pense quand même que c'est sur Basile que nous allons mettre fin aux interventions téléphoniques. Nous revenons sur le plateau ici. Sylvestre, vous avez écouté nos auditeurs. Je le disais entre-temps, ils nous ont écoutés pour un premier temps. Et après tout, maintenant, c'est nous qui les avons écoutés. Vous les avez écoutés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au sujet abordé par ces auditeurs? C'est vrai que la plupart, ou du moins la majorité, a abordé surtout le sujet de billets usés. Et, qu'est-ce que vous allez répondre à cela?
Non, je crois que cela démontre que c'est un fait de société et que le problème, elle, là, persiste. Il y a, je crois que c'est Papa Sordiné qui disait que si vous n'avez que 5000 francs là pour aller acheter un médicament et on vous dit qu'on ne peut pas prendre, là vous verrez que vous voyez votre mort arriver. C'est-à-dire que vous n'avez que ça et vous devez nécessairement prendre ce produit-là. Mais vous arrivez, on vous dit qu'on ne peut pas prendre. Vous faites quoi? Vous voyez, donc ça veut dire que c'est le problème est un peu plus profond qu'on ne l'imagine. Et il faudrait véritablement que la BCAO puisse réagir. Mais c'est qui le directeur de la BCAO? Vous connaissez le nom?
Je m'en rappelle mon son dans la tête. C'est Kossi Trelou.
Je pense que c'est
Kossi Trelou. Moi, je suis un compatriote de surcroît.
Moi, je ne connais même pas son timbre vocal. Je sais pas. Je viens même d'apprendre son nom. Il faudrait quand même qu'il puisse véritablement bouger, quoi. C'est comme si les gens ne mouillent pas le maillot.
On sent la pingritude dans cette institution. Une institution. Non, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas me dire que la BCAO n'a pas les moyens. Quand on dit BCAO, vous connaissez, c'est l'institution dans tout son ensemble.
Mais pour le moment, la BCAO n'a pas encore dit qu'elle n'a pas les moyens.
Mais pourquoi elle ne le fait pas? Et puis chaque année, on est obligé de parler. Mais attends, que M. Trenou, s'il nous écoute, qu'il fasse quelque chose. On sent que, ça dit que, on sent de la mollesse, ça dit qu'on ne sent pas de la vivacité. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il parle, il faut qu'il nous dise des choses, il faut qu'on puisse sensibiliser la population. C'est important.
Non, ce que Bourayma a dit, c'est vrai, il faudrait qu'on soit véritablement sérieux. Il faut sensibiliser la population. Et pour sensibiliser, il faut communiquer. Vous savez, la BCAO peut demander à ce qu'on puisse faire des émissions en langue. Et il y a des radios rurales, des radios locales. Il faut véritablement communiquer pour changer ce comportement-là. Vous voyez, il faut véritablement marteler cela pour changer. Lorsque vous persistez, là, vous tombez sur le coup de la. Mais lorsqu'on bon matin, on peut communiquer sur le site. Et que, bon, puisque nous, on connaît un peu papier, on est allé à l'école des Blancs, on va sur le site, on a appris qu'il y a un communiqué, et puis ça s'arrête là.
Et ça revient de redondant.
Voilà.
Et c'est le même communiqué.
Ça nous intéresse. Hein? Et puis la dame qui est à Kparata ou je ne sais pas où, à Djegré, il faudrait véritablement qu'on puisse dire non, si on amène les billets troués, prenez, après, nous allons. Il le faut, quoi. Rappelez-moi le nom, c'est Kossi Trelou. Non, il faudrait véritablement qu'il puisse bouger. C'est important.
Abbas,
Vous avez voulu connaître ça, vous l'avez connu. Donc, on vous invite à venir au moins sensibiliser les dames, les commerçants et commerçantes, parce que beaucoup d'auditeurs l'ont dit. Je ne suis pas à mesure de changer un billet.
Oui.
J'ai seulement 1000 francs ou 200 francs pour manger. J'arrive, on me dit que la pièce n'est pas bonne. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est moi qui ai fabriqué l'argent. Donc, si les sensibilisations, les communiqués là, ça s'arrête à nous les intellectuels. Parce que moi, ma vieille, bien ma cousine qui vend les ignames sur la route de Anara, Soukoudé,
ou Abassar,
ou celle qui vend les mangues et autres, tu lui donnes, elle va te dire que non. Elle n'a jamais lui un communiqué qui lui interdit et qui lui interdit de ne pas prendre quoi de choses. Donc, il faudrait aller dans les logs locales, comme on l'a dit tout à l'heure. Au moins, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des radios communautaires dans toutes les préfectures du pays. Le message peut passer en langue locale. Il y a à l'intérieur du pays, beaucoup d'émissions sont faites en langue locale. Ça peut se faire, cette sensibilisation, pour dire qu'on ne refuse pas les pièces de monnaie ou les billets les billets. Sinon, c'est nous qui croyons qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est nous-mêmes qui refusons encore l'argent.
C'est paradoxal.
C'est paradoxal.
Est-ce
non, tout est dit. Les interventions en disent long. Hein. C'est cette histoire de problème de billets et monnaie usée. La BCRO doit vraiment prendre le taureau par les cornes une fois encore. Et il faut une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Et la BCRO est capable de prendre tous les journaux, surtout les radios, les télévisions, et faire des spots publicitaires en langue locale, puisque ce sont les populations à la base qui sont les plus concernées. On ne saurait-ce que prendre parole. Bon, quand on prend un communiqué, qu'on laisse sur un site quelque part. Excusez-moi, c'est ceux qui sont allés à l'école qui comprennent. C'est pas toutes nos mamans au marché qui comprennent vraiment français, qui peuvent aller sur le site de la BCAO pour comprendre réellement quelque chose. Donc, il faut que la BCAO descende sur le terrain, ou ne serait-ce que se mettre au niveau de compréhension des populations pour s'adapter et organiser une campagne de communication en bloc également. Et puis, quand c'est en bloc, ça aura un effet plus retentissant que de faire des trucs une fois en passant et tout ça là. Mobiliser vraiment tous les médias sur tout l'étendue du territoire pour qu'on éradique ce...
L'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est au Togo? Parce que les auditeurs, on lui a le dit que c'est au Togo seul, au Ghana et autres, ce n'est pas le cas. Cela prouve que quoi? Cela prouve que notre compatriote et les responsables de la BCAO sont interpellés. Ça veut dire que rien n'est fait au Togo dans ce sens. Donc, c'est eux qui sont les premiers responsables. Donc, ils sont interpellés. Donc, que M. Kossi Trenou prenne ses responsabilités pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et quand même apporter un plus dans la solution, ou bien dans la résolution de ce problème qui est un problème social.
Sabori, nous restons avec vous pour le carton de fin d'émission.
Non, moi, je donne un carton vert. Hein, je l'ai toujours donné à nos compatriotes du Nord. Et Dapaon, la zone là qui vraiment vit une situation que nous connaissons nous tous fois, chaque jour que Dieu fait. Je pense qu'il faut avoir une pensée pour ces compatriotes qui subissent et qui vivent une situation très difficile. Carton vert à eux pour leur dire que franchement, nous sommes de cœur avec eux.
D'accord, merci beaucoup Sylvestre.
Bon, moi je vais donner un carton vert aussi. Carton vert au service de la météo. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de précision avec la météo.
Tout à fait.
Ça, la météo d'avant, il y a des mains, et la météo fort. Ça, la météo, il y a des mains. On annonce même la pluie. Un mois après, même, il n'y a pas pluie. Mais avec la météo de fort, au moins, on te dit, dans 2 heures, il y a pluie. C'est que 2 heures, il n'y a plus. Merci. Ça m'a sauvé. Il y a quelques jetés quelque part. On dit, dans 2 heures, je suis rentré. Et puis, bon, effectivement... Je suis rentré quelques minutes après. Donc, félicitations au service de la météo.
Merci beaucoup, Sibès Kabas.
Oui, moi, je donne un carton vert au ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a organisé à travers l'Agence nationale de la Protection civile une séance, un exercice de simulation.
Tout à fait.
La préfecture de d'Ankpin et de la Kiran pour se préparer en cas d'éventuelles urgences, situations urgentes qui vont se prévenir dans l'inondation, dans les questions intercommunautaires, conflits intercommunautaires et dans les pandémies. Donc je pense que ça a été un bon exercice qui a permis aux forces de sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la Croix-Rouge et à tous les acteurs impliqués pour pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses à faire et ça a été bien fait.
Merci beaucoup, Abbas. Abel, carton de fin d'émission.
Bon, carton vert à toutes ces associations, ONG, qui promeuvent, en fait, mais qui luttent contre l'hypertension. Je vais encore sur l'hypertension. Voilà, qui organisent des centres de dépistage pour que, en fait, cette maladie puisse être réduite dans nos pays. Santé éducation est quand même dans cette dynamique à travers son projet MABEST, qui s'inscrit dans la politique du centre digestif de l'État. Et donc, c'est une initiative à encourager et à financer.
Merci, Abel. Estelle?
Non, carton vert à toutes les 20 populations de la région septentrionale, au ministère de la Sécurité et puis au ministère des Armées également, qui ne ménagent aucun effort pour lutter contre les ennemis de la paix.
Nous n'avons quand même que deux cartons verts. Merci. Alors, merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Sylvestre, merci. Abbas, merci. Abel, merci. Estelle, merci. Taboré, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi. Alors, merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en monde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutcha. Je suis Pascal Lossou. À très vite sur La Nouvelle Génération.